Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Je reconnais des visages amis, des visages que je revois chaque année aussi. Je suis très contente d'être là et très contente d'être en compagnie d'Avril Bénard et de Laurent Petit-Mangin. Nous allons parler de leurs deux livres qui ont beaucoup, beaucoup de points communs, d'écho et de résonance à travers un sujet grave, mais je pense qu'il nous concerne tous, puisque je pense que... À moyen terme, court terme, on n'en sait rien. Nous pourrions tous être menacés par une explosion nucléaire, par une guerre, par l'obligation de partir, de fuir et peut-être de réfléchir à qu'est-ce qu'on garde d'une vie. Voilà. Donc un sujet à la fois intemporel dans leur texte et complètement actuel, je trouve. Alors merci à tous les deux. Avril va lire en préambule une partie du prologue de son texte dont j'ai pensé que ça constituait une bonne introduction aux deux romans, puisque c'est une voix qui prend la parole, qui dit « je ». D'ailleurs, c'est le seul passage à la première personne dans votre texte, et où ça commence en 86. Or, 86, c'est une date qui vous concerne, je crois.
Né en 1986.
Vous êtes né en 86, mais 86, c'est aussi Tchernobyl. Voilà. Donc, je vous laisse la parole.
Je suis née en 1986, et c'est le bonheur qu'on nous avait promis. Ces décennies-là, c'était la fête de l'Occident. C'était clinquant jusqu'au lobe des oreilles, c'était démesuré d'optimisme. On pouvait tout rêver, on pouvait tout acheter, on pouvait tout vouloir, on croyait tout prévoir. Il s'en passait de l'horreur, mais elle n'était que dans la télévision, et on mangeait devant. On nous donnait bonne conscience à nous, les petits gosses, en nous faisant envoyer du riz par avion vers les famines décharnées. Et puis ça permettait de nous éduquer un peu. On nous disait de finir notre assiette. Pense aux enfants africains qui meurent de faim. L'horreur était utile. Somalie, Ouganda, Koweït, Tchernobyl, c'était des noms imprononçables, des noms exotiques qu'on entendait aux infos et puis qu'on oubliait. Et c'était tout. C'était loin, trop loin pour qu'on s'en soucie, aussi loin que possible. Ils ont cru bien faire pourtant nos parents. Ils y ont cru à leur bonheur et ils nous ont enfermés dedans. Et on ne va pas se plaindre, c'était confortable. Ils voulaient nous préserver de la méchanceté de la souffrance. Ils pensaient sans doute que notre joie serait imprenable, qu'elle ne tomberait jamais sous les coups de l'histoire. Ceux qui avaient vécu leur enfance dans ces années toutes roses, je le voyais sur leur visage. Je voyais l'ombre du désenchantement. Je voyais qu'ils étaient déçus, comme moi. On se reconnaissait sans rien dire. Tous, nous avions une inconsolable mélancolie à ce qu'on nous ait menti. Ça nous collait comme du sucre. On était même capricieux devant les merdes du quotidien. On ne savait pas les gérer. On avait grandi dans une telle insouciance... sans le souci de se renforcer. On pensait que rien ne nous arriverait de grave. Ça avait donné de jeunes adultes fragiles comme des oiseaux, crédules comme des agneaux. On nous aurait donné le bon Dieu sans confession, sauf qu'on ne croyait pas en Dieu. On avait cru en l'avenir, mais on ne savait plus comment l'imaginer. Notre monde nous échappait. On s'entêtait à la sourde oreille. On s'étourdissait d'idéalisme. La philosophie de comptoir permettait de supporter nos dépits et nos médiocrités. On souriait plus que de raison. On avait encore la nostalgie de la fable. On aurait voulu qu'on nous prenne dans des bras et qu'on nous dise que tout irait bien, encore. On regrettait les illusions qui nous avaient aveuglés comme un soleil. Et là, maintenant, dans ce foutoir qu'on n'avait pas vu venir, c'est le passé qu'on ne parvient plus à se figurer. C'est la guerre, quelque part, partout, ici, n'importe quelle guerre.
Merci, merci beaucoup. Ouais. Alors, deux remarques à propos de ce texte. D'abord, avant ce texte-là, il y a une très belle introduction de Sylvie Germain qui a marrainé si j'ose dire, ce roman. Et c'est un beau cadeau qu'elle vous a fait là, parce qu'on admire beaucoup Sylvie Germain. Et puis, je me suis demandé si ce texte, ce prologue, il avait été écrit après le roman.
Oui.
Voilà, j'imagine, hein, oui, comme une espèce de récapitulation, oui, au fond, et de réflexion qui met à distance à, oui, la fois le texte. Voilà, c'est juste ce que je voulais savoir. Alors peut-être, avant de passer au livre de Laurent Petit-Mangin, quelques mots sur ce texte, donc à ceux qui ont tout perdu, volontairement, c'est très large, hein, j'imagine que ça dépasse évidemment le contexte de votre roman. D'abord un roman qui n'est pas situé,
non,
ni géographiquement, ni
dans le temps. Ni dans le temps. Enfin,
voilà, c'est une guerre qui tombe, on ne sait pas d'où, en fait, qui arrive. Et elle va conduire à une sorte de galerie de portraits de personnes qui vivent dans le même immeuble, dans une ville, on ne sait pas laquelle non plus. Et vous allez comme ça passer en revue ce que vont vivre ces personnes soumises à une injonction qui est terrible, c'est-à-dire d'avoir tout quitté en une heure, de suivre des soldats, de monter dans des camions, et donc dans cette heure-là, de regarder leur vie et de se demander qu'est-ce qu'on va emporter de tout ça, sachant qu'on n'a droit qu'à un petit sac. Et évidemment, moi, cette situation m'a fait penser qu'elle est complètement actuelle dans plein de parties du monde. Hein, évidemment, on en reparlera. Mais peut-être la première question, c'est effectivement cette volonté de ne pas inscrire du tout votre histoire dans un temps et un espace défini.
Oui, c'est la dernière phrase que je viens de lire, mais c'est parce que là, en ce moment, enfin, depuis que le livre est sorti, il y a deux guerres énormes en cours, mais donc il résonne dans l'actualité, et donc il y a des questions qui sont posées par rapport à ça, mais c'est n'importe quelle guerre, c'est la guerre gigantesque, c'est presque la guerre comme un personnage, mais il y a toujours une guerre en cours quelque part. Parfois, on n'est même pas capable. Il y a quelque temps, j'ai regardé le nombre de guerres en cours, justement, mis à part l'Ukraine et le Moyen-Orient. Il y en avait 23 en ce moment, que ce soit guerre civile, enfin, tout type de guerre. Mais il y avait 23 guerres et on en nomme deux principalement là en ce moment. Mais c'est n'importe quelle guerre. Je ne voulais pas situer ni dater parce que pour moi, c'était une manière de ne... Justement, ces noms imprononçables, quand c'est loin, quand il y a quelque chose d'inatteignable, on a l'impression qu'on ne sera pas touché par ça. Et le fait que ce soit ni daté ni situé, même si on comprend que c'est quand même en France et que c'est quand même en ce moment, mais ce n'est pas appuyé, c'était de faire la place pour le lecteur à cette réflexion-là, et si ça m'arrivait à moi, et si ça m'arrivait maintenant, enfin dans ce monde, et là ça s'embrase encore plus depuis deux ans, mais ça peut nous arriver, et ça peut nous arriver dans un contexte qui n'est pas purement d'une guerre, mais qui est une évacuation, et après ça peut aussi être la guerre intime. Parce qu'une dépression, c'est une guerre, une séparation peut être une guerre, il y a une maladie, et dans ces espaces-là de vie, on a parfois des choses à quitter, et parfois on perd tout. Et
en dehors des guerres, on peut aussi se représenter ce qui va de plus en plus arriver, c'est-à-dire les catastrophes écologiques,
oui,
les gens qui vont devoir aussi tout quitter.
Notamment pour l'eau.
Les inondations du Pas-de-Calais cette année, oui, m'ont fait beaucoup réfléchir à ça, oui, en fait. On est menacé de plein de façons. Voilà, donc ça fait aussi cet écho-là. Alors, peut-être, Laurent, on va vous passer la parole pour situer donc votre roman, Les Terres Animales. Alors, vous êtes venu à Chambéry il y a quelques années pour votre premier roman.
Il y avait moins de monde. Hein. C'était l'année du Covid. Donc,
ah oui, c'est vrai.
Il y avait beaucoup moins de monde.
D'accord. Pour Ce qu'il faut de nuit, qui est un livre qui a eu un beau destin. Hein. Je ne sais pas si Chambéry y est pour quelque chose, peut-être pas.
Ah, bien sûr, non, ouais, mais je pense que Chambéry y est pour beaucoup. Parce qu'en fait, Chambéry m'a fait me promener un peu ailleurs en France et ailleurs d'ailleurs aussi. Donc non, c'est en Allemagne. Donc non, Chambéry y est pour beaucoup.
Alors, On pourrait dire qu'a priori, il y a peu de rapport entre ce dernier livre et le premier et le deuxième, mais je pense que si, quand même, et notamment l'intérêt que vous portez aux relations humaines et notamment à l'amitié, je crois, et la question de la fidélité, on y reviendra sans doute. En tout cas, il y a peut-être un petit malentendu. Vous ne souhaitez pas que ce livre soit classé dans la science-fiction ou dans le post-apo.
Si je peux, hein, ouais. Après, je veux dire, je ne suis pas trop maître. De... Voilà.
Mais ce n'est pas le but de ce texte, en fait. Ce n'est pas le but. Il me semble que c'était surtout vous concentrer sur que se passe-t-il pour un groupe de personnes placées dans cette situation, en effet, incroyable d'enfermement, au fond, et quelles sont les relations qui vont se tisser. Est-ce que je me trompe ?
Non, mais c'est tout à fait juste. En fait, l'idée même du roman, c'était de décrire une histoire d'amitié entre deux couples et un cinquième larron. Une amitié à la fois très belle et avec sa part de trouble. Mais finalement, pour écrire cette histoire d'amitié, j'avais besoin finalement de la confiner, appelons-le comme ça, dans un lieu où ces cinq vont être en permanence entre eux, vont s'observer, vont s'aimer, vont à un moment donné ne plus se comprendre. Et donc c'était ça tout l'enjeu. Donc, et le roman, donc, il est né en deux temps. Il est né d'abord sur cette envie d'écrire cette histoire d'amitié. Et puis, bon, la magie un peu parfois de comment naît un roman, une émission de radio que j'entends et où j'entends des personnes âgées qui ne veulent pas quitter Fukushima. Donc c'est pour ça que quand on me dit que c'est de la science-fiction, non, c'est déjà vrai maintenant, quoi. Donc je me suis dit, tiens, finalement, ces cinq amis, je vais les installer pas à Fukushima. C'est comme pour Avril, dans un lieu qui, on ne le dit pas, bon, il y a des montagnes, de belles montagnes bleues autour.
Des forêts. Alors, cela dit, vous avez imaginé un contexte qui est décrit de manière assez elliptique aussi, comme dans le texte d'Avril, c'est-à-dire une catastrophe nucléaire, une zone irradiée, là où ils vivaient, donc dans ce village, cette forêt, ces montagnes, et... une injonction à partir aussi, hein, de la même façon que dans le texte d'Avril, la police qui est là, qui vient les chercher, et eux refusent de partir. On va comprendre assez rapidement d'ailleurs pourquoi. Il y a ce désir de rester dans cette terre, et finalement le texte décrit une survie qui s'avère assez facile sur le plan matériel, puisque ils trouvent des tas de stocks, ils visitent les villages qui ont été abandonnés, ils se nourrissent assez facilement, il y a la chasse à un moment donné, etc. Donc ce qui va surtout compter, c'est comment on vit ensemble. Parce que vous dites, il y a les cinq, effectivement, Lorna, Marc, Fred, Alessandro et Sarah, c'est bon, j'en ai oublié aucun, mais il y a d'autres personnes qui gravitent autour avec plus ou moins de compréhension ou pas. Il y a le groupe des Ouzbeks, on en parlera sans doute. Donc c'est quand même un texte qui décrit comment on s'organise, au fond, dans ce contexte d'abandon, d'enfermement, de survie, etc.
Oui, c'est... si vous voulez, bon, quand je présente le livre, je dis souvent que c'est finalement peut-être le livre le plus personnel. Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment une histoire presque que j'aurais aimé lire quand j'étais ado, et d'ailleurs ça faisait partie un peu des histoires que j'aimais lire quand j'étais ado, c'est-à-dire une petite communauté comme ça qui va devoir recréer une société. Bon, il y a évidemment les livres de Jules Verne, mais il y en a d'autres aussi, et j'étais beaucoup là-dessus, beaucoup sur ce désir de vivre finalement avec eux. Donc pendant toute l'écriture du livre, en tout cas pendant toute la première partie du livre, j'étais le sixième en fait de ce groupe.
Très bien, le sixième. Je reviens à votre livre, Avril, par rapport à une communauté aussi, puisque cet immeuble, ils ne se connaissent pas forcément tous très bien, mais ils ont entendu parler les uns des autres.
Pour moi, une communauté, ça veut dire qu'il y a de l'entraide et qu'il y a quand même de la connaissance. Ce que j'essaye aussi de montrer à l'inverse, c'est surtout dans les villes, et c'est la solitude de chacun. Et surtout dans cette époque où on est connecté, mais on ne connaît pas son voisin, quoi. Et on est connecté, mais on ne veut pas vraiment connaître l'autre, et on n'a pas la curiosité de l'autre et d'aller plus loin. Et puis après, ça va sur d'autres sujets plus graves de la société. Donc, ce n'est pas vraiment une communauté. Ils sont tous tout seuls là-dedans. Ils sont tous seuls ensemble et ils connaissent même, ils habitent côte à côte, ils ne connaissent pas nécessairement les prénoms, jusqu'à même cette dame âgée dont personne ne se soucie. La femme de Paul, qui elle n'est même pas nommée dans le livre, c'est la femme de Paul. Donc ils sont pas dans, il n'y a pas d'entraide. Ils sont tout seuls. Et d'ailleurs, le premier personnage dans le prologue dit dans une guerre, il y en a qui sauvent leur clan, leur peau ou leur pays. Et là, ils sont plus dans l'idée de sauver soit leur peau, soit leur clan, leur famille, quoi.
Alors, deux remarques peut-être. D'une part, c'est que le texte commence avec Manon et Jeanne, si je ne me trompe, et se clôt aussi avec Manon et Jeanne. Donc, je pense que c'est un duo de personnes qui jouent un rôle très important dans le texte. Ce sont les héroïnes, voilà. Il sera question par écho à d'autres endroits. D'une part. D'autre part, vous avez choisi, je crois, une dizaine de situations, une dizaine de personnages, avec des tonalités extrêmement différentes, des voix différentes. Je pense notamment à cette famille nombreuse qui est complètement dialoguée, qui est assez drôle parfois aussi. Voilà, où on s'interpelle, on s'engueule, etc. Et au contraire, des passages plus poétiques. Je pense notamment à cette vieille dame et ces tulipes.
Ces tulipes.
Voilà. Donc peut-être comment s'est construit au fur et à mesure l'idée d'une espèce de fresque qui soit à la fois unie par un même sujet. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Mais en tout cas, c'est comme des petites nouvelles, en fait.
Oui, c'est comme des petites nouvelles. En fait, ça ne s'est pas tout de suite conscientisé. J'avais Manon et Jeanne. Donc Manon, c'est une maman. Et Jeanne, c'est sa petite fille de 5 ans. Et donc Manon, elle est dans l'urgence de faire ce sac pour pouvoir raconter ensuite l'histoire et le passé, leur passé à sa fille. Et Manon, elle est héroïne, mais plus comme un roc. On la connaît assez mal. C'est presque celle qu'on connaît le moins bien. On a accès à des choses de son passé, mais c'est un archétype d'une maman solide et rêvée et qui porte l'histoire. Mais en fait, assez vite, comme je ne voulais m'intéresser qu'à cette heure, qui est souvent éludée dans la littérature, dans le cinéma, comme un passage obligé de « il y a une évacuation, il faut partir, et puis on passe à la suite, c'est la suite qui intéresse, et c'est la suite sur laquelle on se penche ». Mais sauf que ce moment, cette heure-là, ou enfin une heure, ça peut être 5 minutes, ça peut être une journée, elle est invivable. C'est vraiment un point de bascule. C'est-à-dire que si on est resté jusque-là, c'est qu'on espérait que ça allait se passer correctement, que la guerre n'allait pas durer, ou dans le cas d'un accident, on n'y pensait même pas 5 minutes avant. Mais donc cette heure-là, elle est invivable et c'est un moment de rupture. Et dans une guerre, en plus, un moment de rupture absolue, puisque c'est pas du tout. Enfin, peut-être qu'on ne reviendra jamais, et c'est généralement quand même le cas. On ne reviendra jamais, l'horizon il est bouché, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Et donc, pour m'intéresser à cette heure, et pour qu'il y ait de la place au lecteur de se demander comment je vivrais ça, au bout de quelques temps d'écriture, j'ai déplacé le prisme sur d'autres manières de vivre à chaque fois cette heure-là. Et ils la vivent tous très différemment.
Alors, pendant cette heure, il se passe beaucoup de choses, en fait, énormément. Je pense notamment, on y reviendra peut-être sans trop dévoiler la fin, mais le personnage de Jeanne, pour moi, il est absolument central dans ce texte. Parce qu'elle porte beaucoup, beaucoup de choses, de réflexions, de douleurs. Il y a un très beau passage où la petite fille, elle parle à ses objets, en fait.
À ses jouets.
À ses jouets, et c'est magnifique, parce qu'elle essaie de leur faire entendre raison. Je vais être obligée de vous abandonner, c'est un très, très beau texte. À la fin aussi... Et je pense à d'autres évolutions. Donc, elle va bouger, en fait, Jeanne. Elle va, il va se passer quelque chose d'important en elle. Je pense à cette femme qui, pour la première fois, va résister à son mari et refuser d'abandonner le chien. Donc, voilà. Il y a comme ça pas mal d'échos dans ce texte de ce que cette heure-là, elle comporte de capital et comment elle peut faire bouger intérieurement les gens. Donc peut-être c'était aussi un des enjeux du texte, j'imagine.
Oui, pour Jeanne, oui, il y a un événement qui fait que ça fait trauma. Et donc, parce que ça fait trauma, et aussi parce que moi, je suis convaincue que l'enfant sait beaucoup plus de choses que nous, et je le vois tous les jours avec mon enfant qui a 5 ans. Je l'ai écrit, j'avais pas encore ma fille quand j'ai écrit ce livre, mais il y a une conscience viscérale et ancestrale et qu'on perd à mes yeux assez vite, mais qui est là, de où est la sagesse et qu'est-ce qui compte réellement. Et c'est Jeanne, à la fin du livre, sans dévoiler les choses, mais qui le sait mieux que sa maman et le sait mieux que tout le monde, en fait. Et donc, il y a comme une sagesse comme ça qui est présente. Ça m'émeut beaucoup qu'il y ait un chien, parce qu'en fait, dans les rencontres, on est souvent en intérieur, il n'y a jamais de chien, sauf quand j'emmène l'un des miens. Mais ça m'émeut qu'il y ait un chien parce qu'ils ont une place centrale dans le livre. Donc, ça m'émeut vraiment beaucoup.
Il y a une autrice qui s'appelle Claire Arnaud qui vient avec son chien sur la scène.
Je le fais aussi, et là, je ne pouvais pas parce qu'il y avait une rencontre qui ne le permettait pas. Mais oui, mais en fait, Jeanne, cette femme, la femme de Paul, ce sont des femmes. Et ce sont elles qui avancent quand même principalement dans ce livre. Et d'ailleurs, enfin, l'un des personnages, pour moi, aussi principal dans les hommes, c'est celui qui reste. Mais il ne bouge pas. Mais la force qui avance, la force qui bâtit, la force qui a du courage et aussi le courage de résister et puis d'aller plus loin, ce ne sont que des femmes.
Du coup, je vais passer la parole à Laurent Petit-Mongin parce que dans son roman, il y a deux couples et effectivement un cinquième, Alessandro, qui est l'ami, qui est mauvais au football, mais son équipe gagne quand même. Voilà. Deux couples, Fred et Sarah, et puis Marc et Lorna. Et effectivement, alors, quel rôle vous avez dévolu aux femmes et aux hommes dans ce texte-là? Qui fait avancer?
Je pense que clairement, ce sont les femmes qui font avancer le récit, puisque en fait Fred est le premier narrateur de l'histoire. Bon, c'est quelqu'un qui, je pense, qui a énormément souffert, hein, qui est presque dans une certaine résignation finalement. Bon, c'est quelqu'un qui documente beaucoup ce qui se passe.
Il filme.
Il se dit que bon, un jour peut-être que les gens seront contents d'analyser ces images et pour mieux comprendre finalement l'évolution de cette zone après l'accident. Mais clairement, effectivement, ce sont les femmes qui font avancer l'action. À tel point d'ailleurs que bon, j'avais commencé à écrire donc avec la voix de Fred, et je me suis demandé si j'arriverais à aller au bout de ce livre avec la voix de Fred, et je me suis rendu compte qu'à un moment il manquait une voix beaucoup plus résolue, avec sa part de folie un peu, soyons clairs, mais c'est pour ça que j'ai introduit la voix, disons, de Sarah.
Vous pouvez peut-être lire le début de votre texte aussi pour qu'on entende la voix de Fred, justement. En tout cas, une petite partie, éventuellement.
Il faudrait dire le silence, longtemps. Le silence qui éprend la crénulure des arbres, la fine dentelle de ceux-ci, bien détachée du ciel lavé, qui n'attend que le printemps pour s'enrichir et foisonner. Dans 3 semaines, ces arbres seront magnifiques, débourrés d'un vert déjà strident ou encore tendre, partout le renouveau, partout un motif d'espoir, pas ici. Je marche et je continue de me demander si je fais bien de poser mes pieds là, à cet endroit. Je cherche des traces de pas sur lesquelles poser les miens, comme si c'était seulement miné, comme si ça servait à quelque chose. Les pas d'avant n'ont pas tué la radioactivité, l'ont peut-être dispersée tout au plus, ça ne sert donc à rien. mais je le fais quand même. Il y a tellement de gestes qu'on fait et qui n'ont plus de sens. Arrivé à la maison, je prendrai le temps de les décontaminer, ces chaussures, selon un protocole qui me pèse chaque jour davantage. Une demi-heure à brosser, dans le bon ordre, avec les ustensiles adéquats, sinon c'est mort, mieux vaut ne rien faire. Entrer dans une baraque en poussant la porte, se déchausser à la va-vite, à quoi ça ressemble, bon Dieu ? Ça devait être simple. Je ne m'en souviens plus. Les sas, les douches, les vestiaires ont pourri ma mémoire.
Sur la question, effectivement, on entend une voix très désabusée, au bord d'une forme de désespoir quand même. Sur la question du temps, c'est une heure chez Avril. Et là, leur horizon, c'est 3 ans. Ils savent que 3 ans, c'est foutu, quoi. Et aussi, voilà, la question du temps est très prégnante dans ce texte-là.
Oui, ça m'intéressait de la même façon que j'avais envie de créer un lieu bien clos, isolé. J'avais envie effectivement de garder une certaine logique de temps, enfin une unité de temps aussi. Alors bon, ça s'étage sur quelques mois, on va dire, cette histoire. Mais effectivement, je n'avais pas envie qu'elle passe des années et des années. Alors les 3 ans, c'est un horizon qu'ils se sont fixés. Je suis assez persuadé qu'au fond d'eux-mêmes, ils pensent pouvoir durer bien plus que ça. Mais disons que bon, 3 ans, ça ressemble déjà à une échéance raisonnable, on va dire.
Je reviens sur les personnages. Donc, on entend Fred. Il y a deux autres personnages masculins. Il y a Marc et Alessandro. Et Marc joue un rôle important puisque c'est une sorte d'alter ego. Il va y avoir une histoire. Vous parliez de troubles tout à l'heure, voilà. Comment est-ce qu'il s'est construit en opposition à Fred, d'une certaine façon ? Marc, c'est celui qui il construit, il avance, il monte sur les toits. D'ailleurs, voilà. Donc c'est un autre personnage.
Oui, c'est un personnage qui s'est construit très naturellement. Mais d'ailleurs, les 5 personnages, honnêtement, se sont construits très naturellement. Mis à part Alessandro, que je connais, en fait, les 4 autres, je ne les connais pas. Mais voilà, oui, ils sont assez vite. Je me suis dit qu'il fallait que Marc soit l'élément un peu à la fin. Ça va être un des éléments qui vont décider de l'histoire. Donc, oui. Et Fred, encore une fois, je l'aime beaucoup. Mais il a sa part un peu d'irrésolu, sa part de un peu attentiste. Mais je pense qu'il fait ce qu'il peut.
Dans le premier essai que vous avez lu, on entend la présence de la nature, même si elle est devenue extrêmement dangereuse. Les forêts, il y a la randonnée qui a lieu à un certain moment du texte. La question de la terre est absolument capitale dans votre texte. La terre aussi des tombes, hein, voilà. Donc peut-être aussi un éclairage sur cette dimension-là, puis qui fera aussi écho chez Avril avec quelque chose qu'on met dans ses poches quand on s'en va, quoi, voilà.
Oui. L'histoire, elle démarre. Je ne dévoile rien puisque dès la deuxième page, on le sait. Hein, pourquoi ce couple, pourquoi en tout cas Fred et Sarah décident de rester sur cette terre, bon, qui est quand même, vous l'aurez compris, très inhospitalière, c'est que leur petite fille est enterrée là. Elle a toujours vécu là pendant ses 6 premières années, elle est décédée très jeune, elle a été enterrée là, et donc Sarah refuse absolument de quitter cette terre. Donc évidemment, les autorités vont essayer d'être assez... Les autorités sont pas mauvaises, hein, je veux dire, elles vont essayer de convaincre, de dire bon que le corps peut être transféré ailleurs. Mais Sarah ne veut pas, en fait. Sarah considère que voilà ce soleil qui éclaire la tombe chaque jour, il faut que ça soit dans cet angle-là, et voilà. Donc il y a quelque chose de presque, j'en sais rien moi, de presque tragique à ça, évidemment. Cette histoire d'enterrer, de terre qui a enterré la petite fille. Donc voilà, donc pour eux, en tout cas, c'est clair. On sait tout de suite pourquoi ils sont là. Pour les 3 autres, c'est un tout petit peu moins, un peu moins dit. Bon, mais l'effet d'amitié, le fait que qu'ils aient aidé ce couple à résister justement, à pouvoir rester sur cette terre au démarrage, fait que finalement, bon, bah, ils se sont pris quasiment, si j'osais dire, au jeu, quoi.
Alors, je parlais des groupes qui gravitent autour de ces cinq-là, et notamment, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur les Ouzbeks, parce qu'ils jouent un rôle important. C'est une voie possible d'amitié, de solidarité, de connaissance de l'autre.
Oui, à la manufacture de livres, donc chez mon éditeur, on a quelque chose avec les Ouzbeks. On les aime beaucoup. Il y a eu pas mal de livres sur les Ouzbeks. On ne se donne pas le mot pourtant, mais c'est comme ça. Non, en fait, j'avais envie de... ce groupe, il est très important. Pourquoi ? Parce que ça me permet un peu de... Bon, bah de réfléchir à des notions sur la propriété, sur les Ouzbeks, en fait, ce sont les travailleurs qui ont participé au démantèlement de la centrale, donc qui ont fait quand même le job le plus dangereux qui soit. Et finalement, se sont dit après, bon, tant qu'à faire, nous, on va rester aussi. Enfin, je veux dire, après tout. Et en fait, ces Ouzbeks, dans un tout premier temps, m'étaient utiles pour montrer que mes cinq héros, entre guillemets, n'était pas parfait. Parce qu'en fait, l'accueil des Ouzbeks, pour tout dire, il n'est pas quand même d'un enthousiasme flagrant, quoi. Je veux dire, la toute première scène, Fred et Marc sont là et voient arriver ce groupe, pourtant qui est très poli, qui demande s'ils ont le droit de s'installer dans cette maison qui, de toute façon, est abandonnée et qui, d'ailleurs, n'appartient ni à Fred ni à Marc. Donc, je veux dire, à quel titre ils pourraient leur refuser le droit de s'installer là ? Et voilà, donc les Ouzbeks me permettaient dans un premier temps d'introduire le fait que mes cinq n'étaient pas parfaits, loin de là, qu'ils étaient un peu comme nous, avec leurs belles pensées, leurs beaux gestes, et puis aussi parfois leur petite médiocrité. Et puis bon, effectivement, après, finalement, l'histoire avec les Ouzbeks s'est un peu construite. Je l'ai découverte, honnêtement, vraiment au fil de l'écriture.
Moi, j'ai été très attentive à ce passage où Luca, qui est un des Ouzbeks qui joue un rôle assez important, invite Fred à aller à la chasse, un vrai carnage d'ailleurs, voilà, et où Fred analyse que ça lui permet de casser le cercle. Et je crois que c'est vraiment important, c'est l'idée qu'on ne soit pas tous repliés sur notre communauté, notre groupe, mais qu'on puisse... avoir ces ouvertures-là. Donc, le personnage de Luca, et on va le voir tout au long du texte, en fait, dans des moments très émouvants, d'ailleurs.
Oui, c'est un personnage qui intervient dans un certain nombre de moments clés du livre. Oui. Oui, oui.
Alors, peut-être, je reviens sur vous, Avril Bénard, sur Laurent nous explique que ces Ouzbeks, au fond, ils ont évolué au fil de l'écriture. Peut-être aussi, est-ce que vous avez eu, comme ça, des surprises, des choses qui sont installées dans l'écriture qui n'était pas du tout planifié, comment ça se fabrique ?
Mais déjà, purement dans le processus de l'écriture, il y a tous les moments où... Après, c'est très étrange parce que c'est le festival du premier roman, mais quand on répond à ces questions-là, c'est comme si on savait depuis très longtemps. Mais non, c'est le premier, donc c'est du balbutiement. Enfin, on verra comment ça se passe quand j'aurai terminé le deuxième. Mais en tout cas, pour le premier, il y a énormément de moments où on bûche, où c'est dit très 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 difficile, où on jette. Je l'ai recommencé 4 fois. Mais il y a aussi des moments. Il y a une anecdote de Mathis que j'aime immensément parce que lui disait : je vais à l'atelier tous les jours, je vais travailler. Et quand l'inspiration et la grâce passent, je suis là pour l'accueillir, mais elle passe pas tout le temps. Et même rarement, en fait, c'est des moments de magie. Et il y a vraiment, par contre, c'est vrai, ces moments où on tient le stylo, mais on tient juste le stylo et il y a quelque chose qui s'écrit à notre place. Et notamment le poème de Marek, je ne l'ai pas écrit, il est sorti sous ma main. Donc il y a ces moments de magie pure. Et après, il y a des personnages qui apparaissent, oui, pour des besoins narratifs, des besoins de contraste. Moi, dans le cas de ce livre, j'avais vraiment besoin à chaque fois qu'on ait un autre angle. Donc, il y a eu des personnages qui sont venus parce que je me suis dit, bon, cet angle-là, il n'est pas,
on ne l'a pas traversé, en fait. Et après, il y a du retravail là-dedans. La famille nombreuse dont vous parliez tout à l'heure, c'est une famille où c'est une cacophonie. Ils emmènent des choses, mais ils s'engueulent. Les parents ne comprennent pas leurs enfants. Ils ont plusieurs enfants, dont un qui a à peu près 14 ans et qui est un poète dans cette famille où il n'y a pas la place pour un poète. Et donc, tout ce qu'il veut emmener, qui est complètement absurde aux yeux des parents, et n'est pas reçu, en fait. Il veut emmener son violon, il veut emmener des vinyles. Mais je l'ai retravaillé parce que c'était une cacophonie, mais on ne sentait pas nécessairement aussi leur drame là-dedans. Et donc, la petite fille qui tousse, je l'ai rajoutée 2 jours avant qu'ils partent à l'imprimerie, parce que d'un seul coup, il y avait aussi leur urgence, leur espoir que leur enfant puisse être soigné. Et tous ces gens sont emmenés par des soldats, mais qui sont ces soldats? Et ça pose des choses du passé aussi. Qui nous emmène? Et où est-ce qu'on va? On ne sait pas.
Peut-être une petite lecture de Marek?
Oui, du poème.
Marek, c'est celui qui refuse de partir?
Oui, Marek est polonais et il est venu en France et donc il s'est déjà exilé. Et lui refuse de partir, comme dans votre livre. Et il refuse de partir parce qu'il n'a rien à sauver, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Et donc il n'y a pas de sens pour lui à partir. Et il déclame un poème qu'il invente sur le moment, mais qui pose vraiment la question qui est une question que je me pose souvent. Où est-ce qu'on veut reposer? Et ça m'a beaucoup touchée, justement, toute cette histoire autour de Vic, parce que c'est... Ensuite, où reposent les proches? Et Marek, cet appartement, ce petit appartement très modeste, dans lequel il y a ses livres, qui sont la seule chose qui compte pour lui, c'est là qu'il veut reposer. Il veut mourir potentiellement dans les décombres de cet immeuble. Je partirai pas, vous entendez? J'en ai rien à foutre qu'on me sauve, vous m'obligerez pas. Et me sauver pourquoi? Je bougerai pas d'ici. Et vous avez laissé ma porte ouverte. Il y a mes livres chez moi et je ne peux pas choisir lequel emporter. Je ne peux pas choisir. J'ai pas de femme, pas d'enfant, j'ai rien à sauver. Qu'est-ce que j'aurais à sauver? Je vous ai rien demandé, bordel. Et il y avait un merle qui venait tous les soirs pour des miettes et je ne sais pas où il est. Et je ne peux pas emmener le bruit que fait mon parquet quand je rentre. Et je ne peux pas emmener la tache de soleil qu'il y a juste sur le haut de la couverture quand je me réveille. Je ne viendrai pas, bordel de Dieu. Et... Oui, il y a cette question de où est-ce qu'on veut reposer, quoi. Et des décombres de l'immeuble.
La tirade de Marek, on l'écrit dans un moment de transe.
Je ne sais pas si c'est
d'exaltation, de colère.
Oui, c'est comme si c'était le personnage qui parlait à la place, en fait. Voilà.
Je reviens sur Alessandro. Vous avez dit, Alessandro, je le connais bien.
Oui, oui. lui, il ne le sait pas. C'est un collègue de... c'est un ancien collègue. Il était dans mon équipe. Je crois qu'il ne le sait toujours pas. Il va falloir que je finisse par lui dire. Il a pris sa retraite depuis. Mais c'est tout à fait lui. En tout cas, vraiment, clairement, là, pour le coup, c'est peut-être la première fois où... un personnage, mais réellement inspiré de quelqu'un et de façon un peu monolithique, on va dire, parce que souvent, vous pouvez être inspiré par tel trait de l'un et tel trait de l'autre. Et là, c'était la première fois où, clairement, j'avais même pas à forcer le trait. Alors, effectivement, je n'ai aucune idée de comment il joue au foot. Je me suis dit qu'il jouait très mal au foot, en fait. Mais il a une chance incroyable, voilà.
Il a une forme de grâce, ce personnage, un peu de légèreté, mais pas dans le mauvais sens du terme, voilà.
En l'occurrence, oui, c'est quelqu'un qui a énormément de finesse, c'est-à-dire qui sent les choses, on n'a pas besoin de lui dire, il arrive à deviner, à un silence, à un regard que quelque chose ne va pas si bien que ça. Donc en soi, c'est quand même des personnes qui sont assez incroyables d'arriver comme ça aussi vite et encore une fois avec si peu d'efforts à comprendre les situations.
Tout à l'heure, je parlais de fidélité. Et effectivement, donc c'est très important dans votre texte, Laurent. C'est très important aussi ici, on l'a entendu. C'est-à-dire et quand Marek refuse de quitter ses livres, notamment cet immeuble, c'est être fidèle à soi-même aussi, je pense. Être fidèle à... Et il y a une question qui est posée très clairement dans votre texte vers la fin. Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qui est essentiel? J'ai l'impression que cette question-là, elle nous est posée à nous lecteurs aussi. Peut-être deux mots sur cette dimension-là. Laurent,
Moi, je pense que c'est vraiment une des questions... on n'a pas le même âge, mais je veux dire, moi, vraiment, typiquement, ça devient une question qui m'occupe de plus en plus, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qui est important? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, je pense que c'est vraiment... et je pense que le livre à venir sera peut-être encore plus là-dedans, parce que, bon, ça devient quelque chose, une question qui devient quasiment essentielle pour moi, oui.
Pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. En fait, j'avais la faim. J'ai écrit ce livre pour parler de cette heure, mais pour la fin et pour la dernière phrase, et qui ne parle que de sacralité. Et pour moi, le sacré, c'est une question quotidienne. Et la réponse que je peux trouver, c'est que c'est l'intouchable, en fait. C'est que c'est un intouchable qui nous soutient, qui nous aide à vivre. Et par exemple, Jeanne, donc la petite fille, son papa meurt. Et je dévoile pas vraiment quelque chose parce que c'est la guerre et c'est l'horreur. Et donc, voilà, son papa meurt et c'est dit assez tôt dans le livre. Et à l'instant où elle apprend que son papa meurt, elle endosse la veste beaucoup trop grande de son papa, qui est gigantesque et qui lui fait une espèce de cape. Et dans cette veste, dans la poche de cette veste, il y a un peu de poussière, un écheveau de poussière. Et parfois, elle sort cet écheveau et elle le remet dans la poche. Parce que c'est impossible de jeter la poussière de quelqu'un qu'on aime et qui est mort. Et donc cette poussière, ce petit écheveau de fibre, il est devenu sacré. Mais c'est intouchable, enfin dans le sens, elle le touche, mais c'est un endroit à elle qui est secret et qui lui permet aussi d'avoir la présence de ce père avec cette veste et avec cette poussière qui était celle de son papa, c'est la poussière de son papa. Et après, il y a toute la symbolique aussi de la poussière et revenir à la poussière, etc. Et donc dans le sacré, il y a ce qui était l'autre, quoi. Et il y a l'espoir aussi de tenir. Pour moi, une prière, je suis allée en prison là avant-hier pour en parler et l'un des détenus m'a dit, mais il y a des prières, il y a beaucoup de prières dans ce livre et surtout de Manon, donc c'est religieux. Et c'est pas religieux. Une prière, elle peut être faite par n'importe qui, même quelqu'un qui ne croit pas, parce qu'une prière, c'est toujours un espoir, en fait. Un espoir tourné vers l'avenir ou vers le passé. Et donc, voilà, ce livre n'est que pour parler, finalement, de sacralité. Et d'ailleurs, dans votre livre, ce moment où Sarah porte de la terre, c'est sublime. Mais comme vous dites, porter le feu, mais c'est vraiment ça. C'est porter quelque chose qui tient encore, quoi.
Oui, la terre, je pense qu'elle a un rôle primordial dans nos textes, peut-être. Enfin, je pense que pour tout ce qu'elle signifie, en fait. Ouais.
Alors, vers la fin aussi du texte, je suis désolée, mais cette fin est tellement importante parce qu'elle elle récapitule, au fond.
Mais on peut... ça n'est pas un livre à suspense, ouais, réellement, voilà, c'est un livre à message. Ouais. Et donc, voilà, c'est pas...
Et effectivement, il y a une chose qui m'a frappée dans la fin de votre texte, c'est la question des mythes, au fond. Mmh. Je crois que c'est à travers le personnage de Jeanne, oui, encore une fois, qui est vraiment peut-être le personnage principal
de ce texte, principal.
Qui dit, voilà, il y a eu des mythes, des légendes, mais il va falloir en écrire d'autres.
Oui, c'est l'exergue d'ailleurs, même sans dévoiler vraiment la fin. L'exergue du livre, c'est une phrase de Thomas Wolfe, donc grand écrivain des années 30, complètement oublié, même éditeur que je la connais par cœur, Hemingway, et que, enfin, il avait le même éditeur que Hemingway, que Fitzgerald, qui écrivait des romans fleuves qui faisaient 3000 pages. Donc les manuscrits étaient sur des chariots et l'éditeur a passé beaucoup de temps à le convaincre de couper, ce qui le mettait dans un état pas possible. Mais il y a cette phrase dans L'Ange exilé qui dit « Peut-être faisait-il partie d'une famille plus ancienne et plus simple, celle des bâtisseurs de mythes. » Et c'est vraiment le message de ce livre, en fait, c'est que finalement, ils vont tous s'interroger sur quoi emporter, quel objet compte, mais que ce qui compte, ça n'est pas ça. Ce qui compte, ce sont les histoires qu'on invente et qu'on raconte depuis la nuit des temps. Je pense vraiment que c'est ça qu'on fait et qu'on a fait en premier, parce que c'est le seul endroit, et nous, on est dans un monde plus compréhensible, mais c'est le seul endroit qui permettait de tenir quand on a commencé à se demander d'où on venait. C'était d'inventer des histoires et d'essayer de répondre à ça. Et le caillou, il y a une anecdote archéologique que j'ai découverte là il y a 3 mois qui me bouleverse et qui résonne énormément avec ça. C'est qu'il y a un australopithèque, donc c'est 3 millions d'années avant nous, qui a été retrouvé dans une grotte, donc son squelette, avec dans la main, dans le poing, un galet, où l'érosion, ça s'appelle le galet de Makapensgat, l'érosion de l'époque de cette pierre forme un visage de 2 yeux et un nez. Donc ça veut dire qu'il y a 3000 ans, on s'interrogeait déjà sur le visage et peut-être est-ce qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de, enfin, c'est vraiment dans une spiritualité très pure. Moi, il n'y a pas de croyance particulière là-dedans. Mais donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Et il est mort avec ça, avec ce caillou dans la main, d'un visage. Donc, d'inventer des histoires et d'essayer de répondre à pourquoi on est là, d'où on vient, etc. C'est depuis toujours. Et il n'y a que ça qui compte. Les objets, c'est juste, c'est des symboles de ça. Mais un objet sans personne pour le raconter, c'est rien, c'est un truc.
Alors Laurent, peut-être une dernière question sur la réception par le lecteur aussi. La place que vous laissez au lecteur dans ce texte, elle est importante, je trouve. Il peut se poser des questions sur l'avant. Imaginez, une société qui ressemble à notre monde, certainement. Mais il peut
aussi se poser des questions sur l'après.
Sur l'après, voilà. Est-ce que dans le processus d'écriture, cette question-là, elle est présente pour vous, ou au contraire, est-ce qu'il faut la laisser complètement de côté, l'après ?
Non, mais je crois que c'est dû à pourquoi, finalement, j'ai écrit des bouquins. Enfin, en clair, je ne pense absolument pas à vous quand j'écris, quoi. En fait, mais surtout pas.
Il vaut peut-être mieux pas. Hein.
En fait, je pense réellement à écrire une histoire qui me plaise. Bon, alors, évidemment, vous allez me dire que donc du coup moi j'arrive à la comprendre peut-être mieux que vous certainement, mais voilà, donc quand le livre il est fini, je me dis pas tiens ça c'est assez peu explicite ou bon ça fait partie du livre tel qu'il est et bon finalement d'ailleurs je trouve que c'est ce qui fait aussi le plaisir des rencontres. C'est que bon ben, j'ai souvent finalement des interprétations qui sont pas du tout celle que j'aurais mise, moi, sur le livre. Mais bon, bah voilà, ça fait partie du plaisir des rencontres, quoi.
Peut-être une question incise. Le dernier terme du texte, c'est le titre. Est-ce que c'est
ouais,
venu...
Oui, ça, honnêtement, je crois que j'aurais dû ne pas le faire. Bon, voilà. Bon, c'est pas le truc dont je suis le plus fier, franchement. Mais bon, c'était une petite facilité. Mais c'était en fait le titre m'a été donné par mon épouse et je le trouvais tellement beau que je me suis dit qu'il faut quand même que je lui rende hommage à la fin.
Plutôt votre épouse, si je crois me souvenir, et votre première lectrice.
Exactement. Et donc là, bon, je me suis mis. J'ai trouvé que finalement, après coup, c'était un peu facile. Bon, voilà. Je ferai mieux la prochaine fois.
Oui, mais en tout cas, le duo terre et animal a plein de sens quand même en même temps.
Et dans ce texte, effectivement, les chiens, malheureusement, sont un peu plus loin, en fait. On ne les voit plus, on les entend. Et ils sont regroupés, finalement, ils semblent s'être regroupés comme des meutes. Et en fait, ça, c'était c'est une image que j'avais vue sur un reportage, pour le coup, sur Tchernobyl, où c'était un reportage très fort, où on entendait en permanence les aboiements des chiens, mais on ne les voyait jamais. Et donc, bon, j'ai pris ça de ce reportage, je me suis dit, tiens, ça, je vais le mettre dans le bouquin.
À Tchernobyl, c'est présent dans mon livre parce que c'est un événement qui a eu lieu à Tchernobyl. Mais après, au moment de l'évacuation, on n'avait pas le droit d'emmener des animaux et ils ont exécuté des chiens devant les camions et devant les cars pour éviter la propagation.
Puisque j'ai parlé de l'après, dans votre texte, c'est pareil, comme vous le dites, c'est pas un livre à suspense, on peut en parler. Elles s'en vont finalement ?
On ne sait pas. Okay. L'après, en fait, même ouais. Moi, je
on ne sait pas.
Non. Ouais. Ils partent tous, mais ouais. Pour combien, enfin, vers où? Et puis peut-être que dans 5 minutes, ils meurent. Ouais. Peut-être que Jeanne meurt. On n'en sait rien. C'est tout l'inconnu justement de la guerre avec cet horizon qui n'a plus aucun visage, qui ne ressemble à rien. Quoi. Donc on ne sait pas pour aucun. Quoi. Même Marek, finalement, il reste, mais peut-être que l'immeuble s'effondre.
Je pensais à tout à l'heure, en vous écoutant, sur l'impensé de ces situations qui sont pourtant extrêmement. À quel point, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, l'exode est si peu présent en littérature. Quasiment, très très peu. Il y a quelques documentaires, mais c'est pas un moment qui a été investi littérairement.
Il y a eu Nemirovski, avec Suite française, si je ne me trompe pas, dans le titre que je l'ai lu, sur l'exode, oui.
Ouais, je pense à la littérature quasi immédiate, en tout cas, de l'après-guerre, etc. Voilà. Me semble-t-il. Peut-être s'il est temps de faire circuler un micro dans la salle pour les gens qui auraient des réactions, des questions, des réactions, voilà. N'hésitez pas, si vous avez lu le livre ou pas, les livres ou pas.
Oui, bonjour. Moi, j'ai pas lu vos livres, je suis désolée. Mais il est pas trop tard. Et je me demandais si vous pensez que vous sauriez écrire sans avoir le prétexte d'un drame. J'ai vu que vos 2 livres se basaient sur un drame initial, alors que ce soit une catastrophe nucléaire ou une guerre. Est-ce que c'est un prétexte pour entrer dans la psychologie humaine, dans les relations sociales? Est-ce qu'on pourrait écrire sur la société sans un point de bascule?
Bonne question.
Enfin, pour moi, c'est sociétal, en fait, une guerre. Enfin, donc, je ne trouve pas que ce soit un prétexte. On est à un endroit de paroxysme de ce qu'est un humain. Donc, je ne l'ai pas du tout pensé comme ça. Et c'est aucunement un prétexte. C'est faire la place aussi, justement, à cet endroit-là de ce qui peut se passer pour un humain. Et dans le cas de ce livre, ça, tout ne se passe que parce qu'il y a une guerre. Donc il y a pas de ça ne sert pas à défendre autre chose. Après il y a ce qui se passe dedans, mais ça arrive là pendant qu'on parle. Donc.
Et moi pour compléter ce livre, il a d'abord eu lieu à Chicago dans un hôtel de luxe, mais mon éditeur n'en a pas voulu. En fait, c'était pas du tout la même histoire d'amitié, mais il y avait déjà cette amorce. Il y avait déjà 2 couples et un 5e larron. Donc, vous voyez, à la fois, oui, je pouvais l'écrire puisque je l'ai écrit cette histoire. J'ai fait un manuscrit entier. Et en même temps, peut-être que le drame fait que le livre, alors qu'il ne croyait pas à cette histoire, qui faisait un peu histoire de riche à son goût, là, finalement, inscrite dans ce drame, là, il y croyait énormément. C'est-à-dire, dès qu'il l'a lu, il m'a dit, mais bien sûr, en fait, tout à fait. Alors que le premier, il trouvait que c'était un peu. il n'est pas rentré dedans. Donc, ça répond à la fois oui et non à votre question. Ouais.
Ça veut dire qu'on écrit des manuscrits entiers qui ne vont pas faire de livres.
Ça fait partie de la règle du jeu. Ouais. Et même quand l'éditeur en veut, sur un manuscrit, je me suis retiré finalement en me disant finalement non. Et pourtant, bon, voilà. Donc, oui, ça fait partie après du.
D'autres questions ?
Vraiment, pas de questions.
Je me permets de lire un extrait de. Ah, c'est bon, je lirai après. Allez-y.
Bonjour, moi j'ai lu vos deux romans que j'ai beaucoup aimés. Alors pour Laurent Petit-Mangin, je voulais souligner que dans votre histoire, qui est faite vraiment de proximité de la mort, hein, du début à la fin, il y a quand même une naissance. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez, pourquoi vous avez mis cette note d'espoir au milieu.
Parce que j'avais besoin, si vous voulez, de... Moi, comme je vous l'ai dit, le démarrage du livre, je l'ai vécu très très bien. C'est-à-dire que c'est tout au long de l'écriture de la première partie du livre, j'avais un plaisir incroyable le soir, vous voyez, à me réinstaller avec eux. Et je me suis dit, à un moment, quand même, il faut qu'il y ait un élément qui vienne créer un peu de désordre. Et finalement, bon, bah, donc il y a, oui, il y a cette naissance.
Je dis que j'ai trouvé le chapitre avec la naissance particulièrement beau, puisque c'est une sage-femme qui forme son amie à donner naissance à son propre enfant. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Hein.
Oui, mais ça, c'est tiré, si vous voulez, de mon expérience personnelle. Je ne suis pas sage-femme, mais ma femme s'est faite accoucher par son père. Vous voyez, donc, bon, voilà.
Puis ce qui est très beau dans le texte, c'est que tout le petit groupe va se réunir autour de cette grossesse, de cette naissance. Ça va les souder également davantage. Ouais. Alors, sans lire un extrait, mais le texte de Sylvie Germain est très beau, je trouve, au début de votre texte, parce que c'est un point qu'on n'a pas encore abordé vraiment. Elle pointe à quel point c'est un texte qui met en valeur l'âme des objets, ces petits riens, ces trésors, ces choses tout à fait banales et qui brusquement, parce qu'en une heure, il va falloir choisir, deviennent effectivement des trésors qu'il faut sauver, quoi. Et je pense que ça nous parle à tous, j'imagine. On a tous sans doute autour de nous des petits riens, des trésors cachés que peut-être il faudra sauver quand on n'aura qu'un sac pour partir en vitesse.
Mais je pense surtout que c'est après le départ que ça devient trésor, en fait, parce que c'est ce qu'on a pu sauver qui, d'un seul coup, devient inestimable. Mais dans le moment, il y a une panique absolue, quoi.
Oui, sans doute. Mais elle insiste aussi sur le fait que cet instant et ces objets révèlent en chacun des
moments. On les regarde autrement.
Ouais. De poésie et de prosaïsme en même temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui.
Bonjour, je veux juste savoir la démarche pour trouver un éditeur. Comment ça se passe ? Et en plus, excusez-moi, mais quand j'entends que vous avez écrit un récit et que l'éditeur vous dit non, il faut le réécrire, qui décide quoi et qui nous fait lire quoi ?
Alors, la démarche pour trouver un éditeur, bon, bah déjà, je pense qu'il faut énormément de patience. Énormément de patience. Je pense qu'il faut énormément de chance aussi. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, avoir des personnes dans une maison d'édition. Ça a été le cas pour Ce qu'il faut de nuit. Bon, une maison qui a publié le dernier Goncourt. Bon, dont une des éditrices, bon, je pense, a beaucoup aimé Ce qu'il faut de nuit, l'a fait lire à ses auteurs, tout ça, et pour autant, j'ai été refusé chez eux. Vous voyez, bon, pour vous donner un exemple. Donc, en fait, il y a quand même comme ça, il faut avoir la chance. Et donc, pour avoir la chance, il faut avoir suffisamment de patience pour l'envoyer, le proposer. Voilà. Et après. Après la décision, bon, en principe, l'éditeur ou l'éditrice va vous donner un avis. Il sera positif ou négatif. S'il est positif, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a rien à retoucher sur le livre. Mais bon, je considère que c'est un travail que vous faites avec énormément de plaisir, parce que c'est comme si finalement vous entraîniez et que vous ayez un coach qui vous dit tiens, pour progresser dans telle discipline, tu vas devoir faire ci, corriger ça. Bon. Donc moi, ça me semble plutôt... au fait qu'à un moment donné, ils vous disent sur tel texte, finalement, non, ça, j'y crois pas. Vous avez finalement deux solutions. Soit vous pouvez vous dire, un autre y croira. Mais vous pouvez vous dire aussi, j'ai une relation de confiance avec lui. Je lui fais confiance et donc, j'abandonne le projet. Mais je pense que c'est beaucoup plus simple, évidemment, de faire ça quand vous êtes déjà publié. Parce que vous avez une certaine, un certain relâchement, on va dire, avec ça. Évidemment, quand c'est votre tout premier livre, je pense que c'est beaucoup plus dur, évidemment. Une fois que vous êtes publié, ça va. Enfin, je veux dire, vous pouvez vous permettre d'avoir ce type de mésaventure.
Et quand c'est le premier, et qu'on a enfin un éditeur. Et qu'en plus, il est chouette. C'est aussi la première fois qu'on a un vrai dialogue de travail avec quelqu'un. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que je pouvais l'appeler à 23h en lui disant la virgule de la page 32, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai vraiment envie de la déplacer. Et il me répondait, il n'y a que nous qui le saurons, mais oui, déplace-la. Mais c'est extraordinaire, en fait, parce que c'est un acte tellement solitaire, et même de le faire lire à des proches. Après, il y a des proches qui peuvent avoir ce rôle-là, mais pas toujours. Et donc, d'un seul coup, ça devient un regard extérieur. Et de l'intérieur, il y a des choses qu'on n'avait quand même pas vues. Et ça n'est quand même que pour magnifier et faire grandir parfois une phrase, etc. C'est pas pour contraindre quelque chose. Le dernier mot, c'est toujours nous qui l'avons quand même, quoi. Et donc, est-ce qu'on accepte ou pas ? Mais c'est passionnant, parce qu'on va aller s'interroger sur une virgule ou sur un adjectif, et qu'il y a quelqu'un qui comprend pourquoi c'est important.
Il y a le travail de l'éditeur, il y a le travail des correcteurs après. Et dans les deux cas, en fait, vous ressortez de là, vous avez le sentiment d'avoir un livre beaucoup plus fort, quoi, en fait. Donc, je pense que c'est une contrainte, entre guillemets, qui est très intéressante. Tout petit exemple, on était vraiment sur le point avec mon éditeur de dire, il avait d'ailleurs conclu, il m'avait dit, je crois que on a vraiment, c'est bien là, vraiment je suis très très content, tout ça. Mais vraiment à la toute dernière seconde, on était chez lui, et à la toute dernière seconde, mais vraiment à la Colombo, il me dit, Lorna, là, elle est ingénieure agro, c'est super. Tu pourrais pas m'en faire un tout petit peu plus là-dessus ? Et je me dis, qu'est-ce qu'il veut, tout ça. Mais si vous voulez, je l'ai pris comme un challenge. Et en fait, j'ai trouvé quelque chose le soir même. J'ai trouvé une idée qui est peut-être une des plus belles idées du livre. Enfin, que personne, si ça se trouve, n'a vu d'ailleurs, Mais c'est pas grave. Je veux dire, pour moi, c'est un des éléments, parce que j'ai pu le mettre à l'entrée du livre et j'ai pu reboucler à la fin avec ça. C'est un des éléments qui me plaisent le plus, finalement, dans le bouquin. Et ça, c'est un petit truc comme ça, une espèce de stimuli envoyé par l'éditeur.
Est-ce qu'en dehors des virgules et des adjectifs, sur quoi apporter le dialogue avec l'éditeur ?
Pardon ?
En dehors de la virgule, je pense que le dialogue a dû porter sur d'autres aspects du texte.
Oui, sur le sens. Et puis après, dans la sensibilité, il y a un passage sur lequel on s'est battu parce qu'il voulait que je l'enlève et que j'ai pas voulu. Il me disait, mais ça me touche pas. Je disais, bah tant pis. Enfin, voilà, c'est... Donc, parce que ça résonnait pas pour lui. Mais moi, je savais que ça résonnerait pour d'autres personnes. Et c'est très vite devenu un allié et un ami. Donc, il m'a dit, d'accord. Enfin, mais oui, il y a des endroits purement de sensibilité, de est-ce que ce passage va résonner ou pas. Mais pour moi, si on est avec un éditeur qu'on chérit, c'est vraiment un allié de travail. Tout a été construit par nous. Mais ce serait très présomptueux de considérer qu'il n'y a rien à toucher, en fait. C'est un métier d'être éditeur. Ça veut dire avoir une conscience... comme pour un soufflet, quoi. Enfin, il y a quelque chose de... Et il voit... Moi, je vois de quel détail vous parlez, mais c'est sublime, ce détail, dans le livre. Et oui, enfin, il y a vraiment des choses qui sont apportées parce que l'éditeur dit, moi, je comprends pas ce passage, ce mot, enfin... Et donc, ça veut dire aussi que quand on résiste, il faut ancrer et convaincre. Et donc, convaincre, c'est pas nécessairement le convaincre dans l'intime et lui dire, bah oui, mais si, enfin, ça t'est jamais arrivé. C'est aussi le convaincre dans l'écriture, c'est parfois rajouter une phrase qui va faire que ça va aller résonner quand même chez quelqu'un chez qui ça résonnait pas. Donc, c'est convaincre aussi par l'écriture et d'aller appuyer quelque chose à cet endroit. Et pour l'éditeur, la patience, de l'endurance, même, enfin, de... Et j'ai été refusée par une grande maison où il y avait un éditeur qui l'avait adoré, qui avait tout compris, les sous-textes, etc. Et donc ça fait des douches écossaises violentes, très très dures. Et dans mon cas, ce qui m'a aidée à avoir cette endurance, c'est que je l'ai envoyé à Bobin. Il était encore en vie parce que j'avais besoin de l'envoyer à quelqu'un que j'admirais et de savoir s'il fallait le jeter ou pas. Et il m'a dit, ne le jetez pas, continuez à l'envoyer. Et je l'ai continué à l'envoyer, et peu de temps après, j'ai trouvé cet éditeur.
Voilà, il n'y a pas d'autres questions? Si, une petite dernière devant. Tout devant, premier rang.
Bonjour. On a beaucoup parlé de la guerre, des mondes dévastés, de la mort. Mais je me demandais, avec vos deux romans, qu'est-ce que vous avez voulu dire sur la vie? Parce que quand on parle de mort, de guerre, on veut aussi parler des vivants.
Non, mais je pense que la vie est très présente dans nos romans. Enfin, après, bon, moi, par exemple, dans mon roman, il y a effectivement une difficulté de, sans dévoiler trop de choses, d'en parler. Mais bien sûr que la vie est... Enfin, c'est encore une fois l'amitié, c'est quand même c'est la vie avant tout, quoi. C'est la vie avec la conscience du temps qui défile, donc avec un certain vertige à ça, se dire bon, qu'est-ce qu'on en fait, comment on en profite. Je veux dire, les cinq là, ils sont dans une démarche d'en profiter au maximum, et justement, par exemple. Sur tous les micro-conflits qui pourraient exister, finalement les oublier pour se dire finalement il y a des choses plus essentielles maintenant, il faut qu'on vive des choses plus essentielles. Donc non, je pense que ce sont des romans de vie.
Oui, je suis d'accord. Dans ce livre, c'est un livre de survie. Donc dans la survie, il y a la volonté absolue de vivre et de ne surtout pas mourir là dans l'heure qui vient et si possible ne pas mourir du tout. Donc il y a un élan d'aller vers la suite absolument et de continuer à vivre, et surtout pour cette maman et sa fille, pareil sans rien dévoiler, mais il y a un moment où on ne sait pas à quel endroit ça peut aller, et tout ce qui compte, c'est que cet enfant puisse vivre et puisse survivre. Donc la vie, elle est extrêmement présente, et elle est extrêmement présente dans tout le passé que je raconte pour chaque personnage, de ce qu'était leur vie avant aussi tout ce drame. Oui, je développe leur passé beaucoup.
Est-ce qu'il y a encore une question ou pas? Sinon, on va les trinquer à la vie. Voilà. Plus tard. Merci à tous les deux.
Merci.